RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est parti pour une nouvelle semaine de Grande Gueule avec vous, bien sûr, au 32-16. Bonjour, bienvenue sur RMC la radio, RMC Story la télé. 3 heures de débat, de liberté d'expression, 9h midi, vous connaissez le rendez-vous. Pour démarrer la semaine, autour de moi, l'agriculteur Didier Giraud. Salut Didier.
Salut Olivier, bonjour à la France profonde.
L'enseignante en reconversion, Barbara Lefebvre. Salut Barbara.
Bonjour à tous.
Et Charles Consigny, qui est dans l'enfer du métro parisien. Parce que c'est vrai, alors pour ceux qui ne vivent pas à Paris, c'est un casse-tête le métro en ce moment, les RER, il n'y a pas assez de chauffeurs, donc t'attends des heures, en plein jour. Hein,
on vient de plus loin que Charles, et Charles, lui qui vient de Paris intramuros, il est en retard. Quoi.
Alors je crois qu'il est très énervé parce qu'il m'a dit qu'il voulait porter plainte contre la RATP.
T'as eu une ligne de métro.
Donc on va voir, Charles sera là d'ici quelques minutes, mais il va être assez énervé par ce qu'il a vécu, mais en fait c'est un peu le quotidien en ce moment dans les transports en commun, et pas d'ailleurs qu'à Paris, je crois qu'il y a aussi pas mal de RER et puis aussi d'autocars, de bus,
aux gens du RER,
manque de chauffeurs. Bref, on va pas commencer par ça, mes chers grandes gueules. Il y a un sujet qui vous a interpellé et vous vouliez en parler, c'est le meurtre de Vanessa, cette adolescente de 14 ans qui a été violée et tuée vendredi et dont le corps a été retrouvé le lendemain samedi dans une maison abandonnée située à Tonneins, c'est dans le Lot-et-Garonne. Elle avait été enlevée sur le chemin de l'école. Vanessa, après Lola, avez-vous peur de laisser vos enfants dehors?
RMC, les grandes gueules.
Pourquoi il a fait ça? En plus, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec cette fille. Elle était plutôt gentille, elle avait rien demandé, je pense.
On n'a pas affaire à un homme qui est déraisonnable au sens psychiatrique du terme. Cet homme est accablé par la gravité des faits qu'il a commis. Il aura besoin de parler. Et nous allons réfléchir, le juge d'instruction, les experts, essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme qui a parfaitement reconnu les faits.
Alors, vous avez entendu l'avocat de cet homme qui a reconnu les faits, Romain C, 31 ans, l'intérimaire de Marmande, père de famille, qui a d'ailleurs détaillé à la justice ce qu'il a fait. Il a expliqué qu'il avait eu une sorte de pulsion, il traînait dans sa voiture aux alentours du collège de la victime, consommant du cannabis, et il a repéré Vanessa, il l'a enlevée. Il l'a agressé sexuellement et puis ensuite il l'a étranglé et il s'est débarrassé du corps dans une maison abandonnée. Cet homme était connu des services de police puisqu'il avait été poursuivi à l'âge de 15 ans pour une agression sexuelle sur mineur commis en 2006. Il avait été aussi condamné à l'époque à 15 jours d'emprisonnement. C'est ce qu'a dit le procureur, mais il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions de nature sexuelle. Il s'était fait connaître également pour des faits de dégradation de vol, mais n'avait plus fait parler lui ensuite depuis 2011. La victime, elle avait 14 ans, c'est une jeune fille d'origine péruvienne, scolarisée au collège Germillac de Tonneins. Elle venait d'arriver avec sa famille, elle est née d'une fratrie de 3 enfants. Bien sûr, toute la famille est en état de choc. D'ailleurs, la mère a dû être hospitalisée dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, c'est vrai que Vanessa, ça arrive après Lola, et cette question que sans doute tous les parents se posent, mais peut-on encore laisser nos enfants dehors? Ça s'est passé sur le chemin de l'école, il y a 300 mètres entre l'école et le domicile de cet ado qui rentrait de cours de sport. Est-ce que effectivement aujourd'hui, avec ces prédateurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on doit faire de nos enfants en fait? C'est la question que je voulais vous poser au 32-16 ce matin. J'attends vos réactions. Barbara Lefebvre.
Oui, enfin, des enlèvements, on se rappelle de la petite Marion, dont on n'a toujours pas retrouvé le corps. Les suspicions sur Fourniret, pour l'instant, n'ont rien donné. Donc, on sait les tragédies qui peuvent se dérouler dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévisible. Et bien sûr que lorsqu'on entend, quand on voit ce qui s'est passé pour la petite Lola qui rentrait chez elle, alors là, c'est encore pire, c'est dans son immeuble. Là, cette jeune fille qui est... voilà, choisi par un prédateur qui, apparemment, d'après les collègues de travail, avait des problèmes d'alcool, avait des problèmes d'addiction au cannabis, apparemment. Oui. Donc, ça montre qu'il y a un terrain de fragilité addictive chez cette personne, avec des élans de violence, avec quelque chose... Mm. Peut-être qu'il buvait aussi, peut-être, pour calmer ses pulsions, qui sont des pulsions qu'il avait depuis son enfance. Hein, je veux dire, quand on regarde les trajectoires de nombreux tueurs, sans qu'ils soient des tueurs en série, mais même des tueurs en série, en général, ils commencent très tôt des agressions ou des vols qui peuvent paraître mineurs. Mmh. Guy Georges, la première fois qu'il a essayé de, il a essayé d'étrangler sa sœur adoptive dans la maison, dans la famille, le foyer où il était. Donc, et il a réitéré l'année d'après. Donc, il y a des pulsions chez ces gens-là qui sont souvent visibles dans l'adolescence, qu'ensuite on tait ou bien qu'on minimise. Mais là, je veux dire. La question qui est posée, avez-vous peur de laisser vos enfants dehors? On a toujours peur quand on a des enfants, surtout quand on a une fille, faut le dire.
Toi, tu as une fille.
Moi, j'ai une fille.
Qui est au collège.
Qui est au collège, que j'emmène plutôt à l'école, qui aimerait mieux prendre plus souvent les transports en commun.
Tu ne la laisses pas prendre les transports en commun.
Dès que je peux plutôt aller la chercher, je vais la chercher. On va la chercher. Mais j'ai pas attendu ces faits-là pour avoir peur. On a toujours peur quand on a une fille. Voilà.
Ouais. Est-ce qu'on avait pas un peu moins peur?
C'est d'abord une prédation masculine, avant, même après l'affaire Lola, faut quand même le dire, c'est une prédation masculine.
Mais est-ce qu'on avait pas peur? Enfin, est-ce que les enfants, on les laissait pas plus en liberté avant? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, effectivement, on les protège plus?
Peur, moins peur, je sais pas. Ce que je sais, c'est que les histoires, elles sont toujours arrivées. Enfin, moi, quand j'étais adolescent, une copine de ma sœur a eu sa sœur assassinée dans une cave à coups de couteau. Ils ont mis 30 ans pour trouver le mec. Et puis, un jour, comme ça, il y a un mec qui passe aux aveux. Enfin, tu vois, il y a toujours eu des histoires de près ou de loin. Quand t'es gamin, t'as toujours été impacté. Après, derrière ça, moi, cette histoire, je trouve qu'elle révèle quelques mots de notre société qui sont récurrents, qu'on parle souvent dans d'autres domaines ici. Pour moi, le premier, c'est que la psychiatrie, elle est plus prise en compte dans notre pays, quoi. Ça n'existe plus, soigner la psychiatrie. Enfin, derrière ces profils-là, il y a quand même toujours des déséquilibrés. Tu parles avec des matons.
À l'âge de 15 ans, s'intéresse à lui pour une agression sexuelle.
Oui, mais derrière ça, qu'est-ce qui se passe?
Visiblement, pas grand-chose.
Enfin, on le sait, un mec qui agresse sexuellement, il guérit jamais de ça, quoi. Hein. Il a toujours ce truc-là au fond de lui et il peut repasser à l'aigle du jour au lendemain. Tu parles avec des surveillants de prison, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il te dit, il y a 70% des mecs qu'on garde. C'est pas nous qui devrions les garder, ils devraient être en psychiatrie, quoi. Voilà, ça c'est un des premiers problèmes de notre société qui est pas traité. Je pense. Et puis après, il y a autre chose, quoi. Il y a cette addiction au cannabis. À tous les légalisateurs, même si des fois je me suis posé des questions, à tous les gens qui voudraient légaliser le cannabis, on voit. Alors le cocktail peut-être alcool cannabis, mais on voit où ça peut conduire, quoi. C'est que c'est quand même un truc qui te désinhibe pour passer à l'acte quand t'as des idées tordues, quoi. Et je trouve que ces deux sujets qu'on aborde sur d'autres points et qui sont récurrents dans notre société, ben voilà, voilà où ça peut conduire. Et quand t'es contre le cannabis ou de dire ben il faut enfermer les prédateurs sexuels, tu te fais traiter de facho, quoi. Mais en même temps, voilà où ça conduit, quoi, quand on gère pas ce genre de problème.
Alors, en même temps,
aujourd'hui on en est là, on dit ah bah oui,
il avait un travail, il
non mais voilà qu'il
famille,
soit à peu près inséré, voilà, qui passe sous les radars, ça c'est une chose. Comment on détecte ce genre de profil, j'en sais rien. Ce que sais, et ça c'est quand même enfin un légaliste comme Charles pourra nous dire, mais quand t'as été prédateur sexuel une fois dans ta vie, tu l'es toute ta vie, tu guéris pas de ça, quoi. Hein.
Charles qui a été libéré par la RATP, on est content de t'avoir, ça n'a pas été simple.
Non.
C'était un naufragé de la ligne 8,
non,
c'est ça?
Non, mais je demande une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de cette entreprise. Je demande le passage de tous les salariés aux 40 heures hebdomadaires, la retraite à 65 ans pour tout le monde.
D'accord.
Je veux refaire travailler les gens en France.
D'accord, bon, ça c'est dit.
Ça
c'est
fait.
Le type un peu agacé d'avoir été en retard.
Mais ça,
dit gentiment,
Castex.
Mais tu sens que ça couche.
Jean Castex, oui. Lui envoie un message.
La ligne 8 du métro parisien, ceux qui savent reconnaîtront ce que je dis, ne fonctionne pas.
Il voilà. Ouais, y a plein de chauffeurs.
On ne peut pas monter dans les wagons.
Ah oui. Bon, là, on parle de ce cas dramatique, oui. Cette Vanessa de 14 ans, violée et tuée. Elle était sur le chemin de l'école, hein. Il y avait 300 mètres à faire. Et puis, il y avait malheureusement cet homme qui l'a agressée, qui l'a d'ailleurs pris un peu au hasard, c'est ce qu'il dit. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait pas repérée spécialement. Il l'a étranglée, il l'a violée, il l'a étranglée, il a caché le corps. On s'aperçoit qu'il avait un parcours judiciaire, mais il était tranquille depuis quelques années.
Il avait un passé.
Mais il avait un passé, mais il n'était pas inscrit.
Tranquille, on n'en sait rien. Il a peut-être fait des viols qu'on ignore, parce que
peut-être.
Ça, on ne sait pas. Le nombre de viols qu'il y a en France chaque jour et dont on ne retrouve jamais l'auteur, c'est.
Alors, comment doit-on réagir? Est-ce qu'on doit avoir peur pour nos enfants? Est-ce qu'il faut les protéger davantage sur le chemin de l'école, dehors? Est-ce qu'on peut les laisser dehors en liberté?
Moi, je pense qu'il faut. C'est un drame ce qui s'est passé. En même temps, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'on est un pays de 70 millions de personnes. Il se passe des choses dramatiques tous les jours qui doivent pas nous conduire non plus à tirer des conséquences générales.
Le risque zéro n'existe pas.
On peut pas, à partir de, même si c'est un drame, c'est un drame, c'est ce qu'on appelle un fait divers, ça doit pas, je pense, nous conduire à tirer des généralités.
Oui, mais il y a eu Lola, il y a eu Vanessa, ça commence à faire beaucoup.
Bah, ça fait deux faits divers. Encore une fois, si on réagit à tout ce qui se passe partout, tout le temps, y compris les drames, on bascule dans une société où en fait on surveille tout, on interdit tout, et je pense qu'on n'est pas très loin de faire ça. Non, moi je crois que c'est quand même pas du luxe quand on est une jeune fille toute seule de s'armer, par exemple, d'une petite bombe à poivre ou ce genre de choses. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui
même quand pour revenir de l'école.
Il faut croire, je sais pas. En même temps,
on est à Tonneins, ça, dans le Lot-et-Garonne.
Hein. C'est ça, c'est.
Je pense
c'est
qu'on est quand même
pas dans un coup-gorge, quoi, là-bas.
Je pense qu'on est démunis quand même par rapport à ce type de fait. Et je pense pas, malheureusement. Je crois que un fait si grave soit-il de ce genre ne doit pas nous conduire à nous bunkeriser, à du coup ne plus laisser les ados de 14 ans aller et venir tout seuls de l'école. Si on rentre là-dedans, on n'en sort pas.
Je pense que Charles a raison. C'est aussi une question d'éducation. Il y a des parents, par exemple, qui vont pas raconter à leurs enfants ce genre de faits divers. En ce qui me concerne, pour moi et le père de ma fille, quand il y a eu l'affaire de Lola, cette affaire-là, on lui en parle pour lui montrer les risques qu'il y a. Donc, on lui a toujours dit depuis qu'elle est petite, tu ne vas jamais avec personne, il n'y a personne qui peut venir te chercher à l'école, même si on te dit, ah mais c'est ta mère qui nous envoie, ça n'existe pas, même un policier, ça n'existe pas. Et on lui a toujours dit, par exemple, une chose qu'on lui a dit dès qu'elle est petite, si quelqu'un t'approche dans la rue, tu hurles. Parce que on sait que en général, les prédateurs, mais ça vaut aussi, par exemple, dans d'autres espaces pour les pédophiles, etc., ils ciblent d'abord l'enfant qui paraît le plus discret, le moins extraverti. Donc nous, par exemple, on a toujours dit à notre fille, mais à d'autres, il faut s'exprimer, il faut montrer qu'on est vigoureux, qu'on est une fille qui crie, par exemple, parce que on dit, ça ne te met pas à l'abri. Mais ça montre, ils disent quand même peut-être que celle-là, dans une espèce de prédation instinctive, je vais quand même chercher la proie la plus docile et la plus douce. Donc c'est aussi un devoir d'éducation vis-à-vis de nos filles, en particulier, de leur expliquer la prédation, de leur expliquer les soirées quand ils deviennent plus grands, qu'est-ce que c'est les petites pilules qu'on peut leur faire bouffer dans les soirées et elles finissent violées par le copain de classe. Donc tout ça, c'est des choses qui existent et les filles sont particulièrement exposées. C'est une question d'éducation aussi pour les parents. Et il faut pas que les parents aient peur de parler à leurs enfants, même jeunes. C'est pas leur faire peur, c'est les informer et les mettre en garde.
Caroline est avec nous au 32-16. Bonjour Caroline.
Salut les GG, ça faisait longtemps, ça fait plaisir.
Bah nous aussi, ça fait plaisir de vous entendre. Vous appelez de Vineuil dans le Loir-et-Cher. Vous avez une fille de 13 ans, c'est ça?
Ouais, 13 ans exactement.
Donc j'imagine ce qui s'est passé là. Vous voilà, quand on est parent d'une ado, d'une fille, on peut forcément se sentir concerné. Est-ce que vous la protégez, votre fille? Est-ce que vous l'alertez, comme le dit Barbara?
Les deux. C'est pour ça que je voulais réagir, parce que vu les histoires là qui s'est passé derrière moi, c'est vrai que ça fait beaucoup à la suite. Et quand on a une fille de 13 ans, forcément, en plus, je suis assez empathique, moi, donc du coup, on se met tous à la place des parents. Et moi, la mienne, elle prend le bus à 7h. Enfin, j'ai la chance d'avoir une maman qui l'emmène assez souvent, donc elle le prend assez rarement, mais quand elle le prend à 7h...
À 7h du matin?
Il fait nuit.
Ouais, il fait nuit, ouais.
Elle a 12 minutes à pied pour y aller. Hors de question, je la laisse partir les 12 minutes à pied dans la nuit à 7h du matin. Elle pourra crier ou faire ce qu'elle veut.
Parce que c'est calme.
Bah, évidemment, on est dans des villages.
Ouais.
Au passage, je prends les coquines.
Hors de question de la laisser partir le matin, 7h du matin, quand il fait nuit.
Du coup, ce que je disais aussi, c'est que moi, donc j'ai 46 ans, à l'époque, dans les années 80, je partais à pied à l'école, j'avais 6 ans. Alors, ok, ça existait déjà. Mais là, maintenant, c'est à chaque fois, ou 90% du temps, quand vous entendez les personnes qui ont fait ça, c'est casier judiciaire récidiviste. Casier judiciaire récidiviste. Ouais. Moi, je suis désolée. Hein.
Mais je sais pas
Charles, il va pas être content, Charles. parce que je vous écoute tout le temps, je sais quel est son discours, mais entre ce qu'il dit où la justice fait son travail et le ressenti des Français où en fait ces casiers judiciaires récidivistes et qu'on les retrouve, ils ont passé leur peine et que ça recommence et que ça aurait pu être évité, il y a un fossé, hein. Je suis désolée Charles de le dire, mais c'est la vérité. Hein. Et à cause de ça, à cause d'une justice qui a plus de place en prison et qui donc
et qui soigne pas non plus, parce que là on est aussi face à une perversité de quelqu'un qui visiblement très tôt l'a manifesté et qui n'a pas été suivi ou en tout cas
enfin voilà, il y a rien, il y a pas de suivi, il y a rien derrière, enfin bref, on fait plus rien, l'État nous protège plus. Voilà. Donc du coup, moi désolé.
Charles va vous répondre puisque il est
non mais
en plus il est mauvaise humeur, il arrive en retard, j'ai pas de chance.
Absolument. Je peux pas souscrire à ce que vous dites. D'abord, d'abord, comme je viens de le dire, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop générales d'un fait divers, si dramatique soit-il, et en tirer la conclusion que toute la justice est défaillante, que des milliers de prédateurs sexuels se baladent dans les rues aux abords des collèges. Et que il faudrait construire 10 000 places de prison pour enfermer tout le monde. Et là, c'est bon, vous seriez tranquille, vous pourriez laisser votre fille partir à 7 heures du matin de chez vous.
Il y a un juste milieu.
Je pense que construirait-on 100 000 places de prison, vous ne laisseriez quand même pas votre fille partir à 7 heures du matin.
C'est souvent les mêmes profils, Charles.
Le témoignage que je
sais bien qu'il y a beaucoup de récidives dans les criminels sexuels.
Le témoignage que je peux vous donner de ce que je connais moi de la justice pénale, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est mis en cause pour une agression sexuelle ou un viol, si les faits sont étayés et il faut plus grand chose à la justice pour considérer que les faits le sont, cette personne, elle part en détention, que ce soit dans le cadre d'une enquête dans une condamnation.
Est-ce qu'il y a un suivi?
Et ensuite, normalement,
obligation de soins.
Oui, normalement, il existe un suivi socio-judiciaire avec des services qui relancent les gens, qui s'assurent que
ça, c'est le
les gens exercent leur suivi. Non, mais
est-ce que ces gens-là ont les moyens de faire leur travail?
Je vous dis que c'est des dispositifs qui existent. Oui. Alors, s'agissant du suivi psychiatrique, etc. Je sais pas dans quelle mesure ils ont une réelle efficacité. En revanche, s'agissant d'envoyer en prison tous les gens sur lesquels existe un soupçon, je peux vous dire que la justice n'a pas la main qui tremble, pour le meilleur et pour le pire.
Caroline, voilà la réponse de Charles. Merci en tout cas d'avoir appelé. Dans un instant, autre témoignage, celui de Christelle, pareil, qui se sent concernée par ce qui s'est passé. Elle a une petite fille qui rentre toute seule de l'école à 8 ans. À tout de suite au 32-16 avec vos témoignages, avec Didier Giraud, Charles Consigny et Barbara Lefebvre.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, Barbara Lefebvre et Didier Giraud. Vous le savez, chaque jour, c'est vous qui devenez à partir de 11h le rédac-chef de l'émission. Vous choisissez notre sujet de discussion. On vous propose deux débats possibles. Tout d'abord, l'un consacré au Qatar, le Qatar qui a totalement raté son entrée dans le mondial hier. Ou alors, si vous le souhaitez, on peut revenir sur les révélations du Parisien concernant Samuel Paty. Les derniers jours de Samuel Paty qui a été assassiné par un islamiste il y a 2 ans, et on s'aperçoit dans le rapport d'instruction, et le Parisien se l'est procuré, que Samuel Paty était un homme seul, terrorisé par ce qui se passait, par cette menace, qu'il n'a pas beaucoup été aidé ni par ses collègues, ni par la hiérarchie, à part peut-être la principale du collège, qui d'ailleurs depuis n'endort pas et dit que elle se sent responsable de ce qui s'est passé. Alors soit on parle de Samuel Paty, soit du Qatar, à vous de choisir, c'est à 11h et c'est vous qui choisissez sur rmc.fr. Pour l'heure, nous sommes sur cette affaire dramatique qui fait beaucoup réagir depuis ce week-end, la mort de cette adolescente de 14 ans, Vanessa, violée, tuée vendredi. Le corps a été retrouvé le lendemain samedi dans une maison abandonnée à Tonneins. L'homme coupable de ces faits a reconnu très vite les faits, 31 ans. Reconnaissons d'ailleurs que la vidéosurveillance était très utile à Tonneins, puisque c'est grâce à elle qu'on a récupéré, on a retrouvé très rapidement cet intérimaire de 31 ans qui vit à Marmande, qui était connu pour une agression sexuelle sur mineur lorsqu'il avait 15 ans. La question, on se la pose après Vanessa. Lola, avez-vous peur de laisser vos enfants dehors dans la nature, notamment sur le chemin de l'école, puisque ça s'est passé sur le chemin de l'école? Christelle est avec nous au 32-16. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Vous nous appelez de Chambéry en Savoie. Vous avez une petite fille de 8 ans, c'est ça?
C'est ça, j'ai une petite fille de 8 ans et demi et je suis contrainte, étant mère célibataire et ma famille est à plus de 500 km, de la laisser rentrer le soir toute seule de l'école.
Il voilà. La distance, c'est combien?
Alors, c'est raisonnable, c'est 150 mètres.
D'accord.
Voilà.
Donc elle sort de l'école quoi, vers 4h30?
Voilà, elle sort de l'école à 4h30, elle m'appelle pour me dire qu'elle est bien rentrée et je rentre à 5h30. Voilà.
D'accord.
Alors après, pour recontextualiser, moi personnellement, j'habite avec Belette-le-Lac. Ma petite avait 3 ans et demi quand il y a eu Nordal-le-Landais qui était juste en face de nous avec tout. Donc je lui ai parlé très tôt de tout ça. En plus, dans ma famille, il y a eu pas mal de problèmes d'agression sexuelle intrafamiliale. Donc c'est un sujet auquel je l'ai toujours pas préparé, mais je veux dire, j'ai toujours parlé ouvertement des choses. Donc que personne n'a le droit de la toucher, que voilà.
Elle est sensibilisée.
Elle est sensibilisée. Aussi, un de mes amis était Arnaud Beltrame. Donc moi, disons que je suis dans un cheminement où je ne veux pas me laisser terroriser.
D'accord.
Je veux pas qu'elle soit une proie, et je veux lui apprendre à se défendre. D'ailleurs, la dernière fois, un petit camarade a essayé de lui baisser sa culotte dans la cour. Il s'est pris direct un coup de pied dans les parties intimes.
D'accord. Par qui? Par votre fille ou par
ma fille?
Par ma fille. Ah oui. Elle sait se défendre, votre fille.
Oui, je l'ai appris.
Ouais. Elle a raison.
Voilà.
Elle a raison, dit Barbara.
Bah oui, elle a raison.
Je veux pas vivre dans la terreur. Je veux pas lui empêcher. Ça lui fait plaisir en plus. Et puis de toute façon, j'ai pas d'autres moyens. Je veux pas lui empêcher. Il faut savoir que 90% des agressions sont dans le cadre familial.
C'est vrai aussi.
Il faut leur apprendre à personne. D'autant plus, j'ai mis en place une chose avec son papa également. C'est un mot de passe. C'est-à-dire que si quiconque se présente en disant « monte dans la voiture » ou « suis-moi, c'est ta maman ou ton papa qui m'envoie », s'il n'a pas le mot de passe, elle crie et elle lui tape dans les parties.
D'accord.
Voilà.
Au moins, ça, c'est clair.
Et l'autre jour, je n'avais pas pensé, parce que sa tata habite à 500 km, on n'avait pas pensé à lui laisser le mot de passe, parce qu'elle était en vacances, passait la chercher, et ben, elle n'a pas voulu monter même dans la voiture de sa tata.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Ah oui, donc elle a su bien la consigne.
Donc voilà, moi, il faut pas vivre dans la terreur, il faut pas leur faire peur.
Il faut
peur.
Alerter, mais vous dites, voilà, il faut qu'elles puissent être libres.
Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui font peur à leurs enfants, qui les empêchent de faire tout, mais qui leur expliquent pas. Les enfants savent pas que c'est une agression sexuelle, les enfants savent pas que c'est...
Mais ils ont pas le droit de sortir.
Ils savent pas pourquoi. Donc du coup, dès qu'ils peuvent, les rares fois où ils sortent, ils font des bêtises, ils vont plus loin, ils vont ci, ils vont ça.
Ouais.
Voilà, c'est ma manière de penser.
Donc dire les choses, mais pas la traumatiser quand même.
C'est ça, mais dès qu'on commence des petits, moi le problème c'est posé dès la crèche. À 2 ans, quand je l'ai mis en crèche, je me suis dit, oulala, et je vais expliquer que personne n'avait le droit de faire guili à ses parties intimes. Ni papa, ni maman, ni papy, ni mamie, ni personne, parce qu'elle était encore changée à l'époque et tout ça. Mais c'était tout petit, et sans stigmatiser, sans appuyer sur le truc, quand on leur parle des petits, en fait, ça devient normal dans leur tête. Ils n'ont pas peur, mais ils savent que ça existe. C'est comme le feu, ça brûle.
Barbara, elle a raison?
Bien sûr qu'elle a raison. C'est indispensable d'alerter et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éduquer nos enfants. Ça, donc c'est tout à fait légitime et vous avez raison, non pas d'expliquer à votre fille qu'elle doit être violente, mais elle doit absolument réagir. Encore une fois, je vous le dis, quand on est une fille, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut même être un camarade de classe qui l'agresse. Là, on a des faits avec des prédateurs adultes. Donc évidemment, un prédateur adulte, on va pas se mentir non plus, hein, Christelle. Mmh. Bon, on sait que si c'est un prédateur adulte, même à 8 ans, 10 ans, 11 ans, c'est pas avec des coups de pied qu'on...
Je sais bien, c'est pas une superwoman.
Mais vous avez raison, en tout cas, ça donne confiance. Votre fille, elle gagne en confiance aussi. C'est important qu'elle ait confiance en elle pour pouvoir justement être réactive si jamais elle voit quelque chose. Et même, ça a un autre impact parce que souvent, les enfants se parlent entre pères et elle peut dire à une petite camarade, il s'est passé ça, parce que encore une fois, je vous le dis, moi je sais qu'il y a des parents, ils veulent pas parler de ça aux enfants parce que ça leur fait trop peur. Non, c'est pas pour, au contraire, c'est pas pour faire peur aux enfants, c'est pour les armer, pour qu'ils puissent se défendre. Et vraiment, je veux pas avoir l'air de le répéter, bien sûr, il y a des petits garçons qui se font agresser. C'est les agressions pédophiles, ça se passe souvent d'ailleurs au sein de la famille ou avec des gens qu'on connaît.
Mais
filles, c'est autre chose.
Majoritairement au sein de la famille.
Les filles, c'est autre chose. Et on rappellera que parfois, il y a des petites filles qui vont pas aux toilettes à l'école, par exemple, parce que vous pouvez, dans les collèges en particulier, aussi vous faire agresser par des camarades dans les toilettes des collèges. On sait bien que l'éducation nationale n'est pas très réactive non plus.
Excusez-moi, même petit, elle m'a relaté il y a 15 jours qu'il y avait des garçons qui avaient enfermé une petite fille dans les toilettes pour voir ça. Et elle a été chercher l'institut. Elle leur a crié dessus et elle a été cherchée d'instit.
Ben voilà. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ensuite, les responsables de l'éducation nationale soient très réactifs par rapport à ça, parce qu'encore une fois, ces garçons qui agissent en meute, vous en avez dans tous les établissements scolaires et vous en avez dans beaucoup de classes. Et rien n'est fait. Oui, mais rien n'est fait. On met tout le temps la poussière sous le tapis sur ces trucs-là. Alors que moi, je suis désolée, il faut convoquer les parents.
On parle beaucoup des victimes, mais qu'est-ce qu'on fait sur les bourreaux, quoi? Enfin, à un moment donné, moi, je m'interroge là-dessus. Enfin, dans ces affaires, il y a toujours récidive, il y a toujours des indices, il y a des passages à l'acte qui peuvent être espacés. Moi, je suis dubitatif de comment on gère quelqu'un qui est condamné une première fois pour agression sexuelle et comment on gère ces personnes. Enfin, moi, je le dis souvent, je connais plusieurs surveillants de prison qui te disent aujourd'hui la camisole chimique, ça n'existe plus, quoi. La castration chimique, ça n'existe plus. C'est interdit par la loi. Les mecs, ils portent plainte, conseil de justice,
Charles te le dira quand même, en prison, les détenus, ils sont quand même bien shootés, hein. C'est-à-dire que t'en as certains, c'est des zombies, hein. Parce que quand ils se prennent 20 ans, 25 ans, 30 ans, je peux te dire que tu tiens pas si t'es pas shooté au Médoc, hein. Donc, ils sont même plus eux-mêmes, hein.
Non, mais le problème, c'est le suivi après. Notamment lorsqu'on
sait pour faire du suivi, il faut des moyens, quoi.
Il faut des moyens. Merci Christelle d'avoir appelé au 3216. Sabrina est avec nous également. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Ah, c'est marrant, c'est beaucoup les mamans qui appellent ce matin au 3216.
Je me disais la même chose.
Ah ouais, c'est fou, parce qu'après, il y a Magali 4 ans également.
Je pense que les papas sont aussi concernés. C'est juste qu'ils ont une façon d'appréhender la chose qui est peut-être un peu différente. Et du coup, ils s'émanticipent moins sur le sujet, quoi.
Les papas sont moins pas concernés, mais peut-être qu'ils
seront moins conduits en danger. Différemment, je pense.
Ouais. Vous avez deux enfants, vous, Sabrina?
Ouais, alors j'ai deux enfants, donc notamment une petite fille, et du coup, je rejoins totalement le discours de la précédente auditrice. Donc, je pense que personne n'est à l'abri et qu'il faut évidemment sensibiliser nos enfants. Donc, ça passe par leur expliquer, faire attention, machin. Je pense que personne n'est à l'abri, et je pense aussi, la question c'est est-ce qu'on a peur pour nos enfants? Je pense que oui, aujourd'hui j'ai peur pour mes enfants, mais je pense également que ma mère avait peur aussi pour moi à une époque. Ouais. J'allais au catéchisme.
Vous avez raison, je vois pas ce qu'il y a de changé là-dessus, quoi.
Mais j'ai l'impression qu'on avait plus de liberté. On était plus souvent dehors. Déjà, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas le moyen de localiser. Enfin, moi, je parle de mon époque à moi, de mon enfance. On jouait dehors dans la rue. Ouais, enfin, et puis on partait, on disait
aussi,
à notre mère,
dehors.
Je m'en vais. Et puis après, il n'y avait plus de nouvelles pendant deux heures.
À l'âge de 13 ans, on allait tous au collège ensemble. On était un groupe de 8, 10 à partir à pied. Ça ne posait pas de soucis, mais je pense que ma mère avait aussi peur pour moi. Je pense que le souci n'est pas là. Je pense que la société, elle a évolué et l'école et tout ça, elle a pas évolué en même temps. Je prends le cas par exemple de mes parents. Bon, la mère ne travaillait pas à l'époque, ça se faisait beaucoup. Le papa travaillait, donc je veux dire l'enfant, il rentrait de l'école, la maman était là.
Aujourd'hui,
on est dans une société tout à fait différente.
Venait chercher l'enfant à l'école aussi.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, si vous avez un travail, déposer votre gamin le matin à 9h et aller le chercher à 17h. Les horaires ne
correspondent pas. C'est pour ça que les femmes ne doivent pas travailler.
Donc à un moment donné,
elles mettent en danger leurs enfants en travaillant.
Pardon ?
Non, Charles raconte des bêtises. Ne soyez pas. Il dit que les femmes devraient arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants.
Non, mais je pense que c'est un point aussi à.
Et pour faire la guerre,
on le dit pas assez. On le dit pas assez aussi.
Après, il y a des nounous.
Objectivement, les chiffres, est-ce qu'il y avait moins, est-ce qu'il y a plus
nounous, mais vous savez, quand vous payez une crèche ou une nounou, les premières années de vie de votre enfant, vu le bras que ça vous coûte, à un moment donné, vous êtes bien obligé de mettre stop.
Et d'ailleurs, certaines mamans arrêtent de travailler, parce que ça coûte plus cher d'avoir une nounou.
Moi, je l'ai fait, j'ai pris un congé parental. J'ai pris un congé parental parce que ça me revenait moins cher d'être chez moi à garder ma gamine que payer une nounou.
Mais aujourd'hui, il y a quand même le portable. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on peut donner assez vite un portable à un enfant. Et c'est un moyen quand même d'alerter, non?
Un moyen d'alerter,
mais
non.
Mais tu prends les risques aussi.
Dans le cas de Vanessa ou de Lola, j'imagine que Lola, elle avait peut-être un portable et Vanessa, elle en avait peut-être un aussi. Quand on subit l'agression d'un adulte violent, même si c'est une femme, dans le cas de Lola, peut exercer une pression physique, ton portable, t'as pas le temps de le sortir. Alors après, ça permet peut-être uniquement de te géolocaliser. Mais même ça, les parents de Lola ou les parents de Vanessa n'ont pas été en mesure de le faire.
Je voudrais revenir sur un point, par contre, du coup, vous l'avez dit, quand on parle de la justice, pour avoir été dans l'administration pénitentiaire, j'ai côtoyé pas mal de pédophiles. Je pense que la société ne réalise pas l'ampleur du problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre le curseur. Ceux qui agressent donc les mineurs, les enfants, c'est quoi ? C'est des malades ou c'est des crimes ou c'est des criminels ?
Les deux.
Il est où le curseur là-dedans ?
Ouais,
parce que quand les vous deux. Dites, parce que quand vous dites que une personne elle prend 30 ans et qu'elle est shootée, c'est faux. Elle prend 30 ans si elle a tué, mais je vous parle que d'agression sexuelle. Ça se compte en mois avec les réductions de peine ou un nombre d'années minimal. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple qui m'a tué et je venais d'accoucher de ma petite fille et j'ai eu un électrochoc. J'ai côtoyé quelqu'un qui était donc incarcéré pour des faits d'agression sexuelle. En prison, il était comme vous et moi. Et il est sorti. Quand il est sorti, il s'est trouvé un travail. Le travail consistait à jouer le Père Noël dans un centre commercial.
Comme par hasard.
Donc je me pointe un samedi, heure de pointe, dans un centre commercial. Et là, je vois un mec déguisé en Père Noël. Et puis, je vois son regard et je me dis, putain, mais je le connais. Où est-ce que je l'ai vu ? Et j'ai cherché. Et le soir, je me suis aperçue que c'était un ancien détenu. Expliquez-moi comment un mec qui a été incarcéré pour agression sexuelle peut, pendant 8 heures d'affilée, avoir des petits gamins sur ses genoux.
Ouais, c'est dingue.
Ne me parlez pas de justice. À un moment donné,
il y a pourtant un fichier des
ouais,
auteurs
d'infraction d'agression sexuelle. Il y a des connexions qui se font pas.
Mais vous
ce
savez,
que nous,
y a
ce que nous explique
savez,
Sabrina, il y a des connexions savez, qui se font pas quand même.
Mais
hein.
Vous savez, en France, tout existe. Mais entre ce qui existe, entre ce qui est fait, il y a un fossé. Donc à un moment donné, il faut arrêter. On vit dans un monde qui est fou. Et je pense que tant que personne ne mettra le point sur la société actuelle, on aura un souci, un fossé entre ce qui existe, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas.
Mais dans l'éducation nationale, on a mis du temps avant de repérer précisément les pédophiles, de les mettre hors d'état de nuire.
Mais en général, on le sait, les psychiatres l'ont un peu démontré, les sociologues aussi. Les pédophiles se choisissent généralement un métier ou une occupation qui les met en contact avec les enfants. Donc, ça peut être des enseignants, ça peut être du périscolaire, ça peut être des curés, parce que pour le catéchisme, excusez-moi, hein, mais c'est pas, on a raconté les trucs, oui, c'est l'abstinence, machin, non, c'est qu'ils étaient déjà pédophiles et qu'ils ont choisi un boulot dans lequel ils allaient pouvoir tripoter des enfants. Donc voilà. On a un vrai problème. À l'éducation nationale, tu présentes ton bulletin vierge du
casier
judiciaire. Mais ça, c'est avant que tu passes le concours. Une fois que tu as passé le concours, je veux dire après, ça n'empêche pas. Là, on a vu qu'il y a 48 personnes.
Notre ami là, qui a tué la petite Vanessa, il n'aurait pas pu être à l'éducation nationale. C'est ça que tu nous dis. Il a été condamné à 15 ans.
Ah non, à 15 ans, il n'a pas été condamné.
Il a fait 15 jours de prison. Il a fait 15 jours de prison.
Apparemment, il n'avait pas de suivi, etc. Je ne suis pas sûre qu'à 15 ans, c'était inscrit sur son casier judiciaire.
Je ne suis pas sûre.
Ma question est, est-ce que ça l'empêchait ou pas d'être à l'éducation nationale?
Je vois en tout cas que ça ne l'empêche pas, puisque par exemple, dans les 48 personnes qui ont été arrêtées là dernièrement, chez qui on a trouvé des contenus pédopornographiques, il y avait des membres de l'éducation nationale. Oui. Donc bien entendu, ça n'est pas massif, mais bien entendu, qu'à l'éducation nationale, il y en a, et des élus, et de tout ce que vous voulez. Donc c'est une vraie problématique, et Sabrina l'a évoqué.
Sabrina, l'histoire du
Père Noël. Il y a une dimension psychiatrique aujourd'hui en prison. Ouais. On devrait créer des prisons spécifiques pour les suivis des personnes psychiatriques et pas les mélanger avec les gens du droit commun déjà.
Comme le risque zéro n'existe pas, autant éviter quand même que ces gens-là se retrouvent en contact d'enfants.
L'hôpital psychiatrique, il n'est pas fait non plus pour eux. Hein.
Merci Sabrina. Désolé Magali, il y a eu beaucoup de témoignages, excellents témoignages. Merci Sabrina d'avoir appelé au 3216. Magali, désolé, ça sera pour une prochaine fois. On posait la question, avez-vous peur de laisser vos enfants en dehors? Que répondez-vous sans trop de grandes surprises? Vous dites oui à 85%. Dans un instant, on s'en fout pas, avec l'ami Louis Gerbier.
RMC. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud. Et il est temps d'accueillir l'ami Louis Gerbier. On s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Salut Louis.
Salut, bonjour à tous. Alors, on y va.
C'est le retour de Donald Trump sur Twitter. Elon Musk, nouveau maître à bord de l'Oiseau Bleu, a lancé une consultation ce week-end et plus de 15 millions de votants pour une victoire du oui à 52%. Et donc, le retour sur Twitter de l'ancien président des États-Unis. Alors, on s'en fout pas, Didier ?
Complètement.
Barbara, on s'en fout ?
Oui, on s'en fout.
Et Charles ?
On s'en fout légèrement.
On s'en fout légèrement.
Et on passe à autre chose.
Eh ben, on passe alors.
On fout.
Il faut changer les choses. Pour ça, si on veut. Pas d'accord majeur en termes de réduction des émissions lors de la COP de 27. Avec les engagements pris, on ferait au mieux plus 2,4 degrés, au pire 2,8 degrés, donc ce qui serait dramatique. En revanche, adoption d'une résolution emblématique pour que la compensation des dégâts causés par le changement climatique subi par les pays pauvres leur soit dédommagée, en quelque sorte.
Donc, en gros, on va continuer à polluer, mais on vous donnera de l'argent.
Mais voilà, mais on vous donnera...
Ce qui est déjà fait. Hein.
Ouais, voilà. Donc,
ça a été un flop.
La COP qui accouche d'une souris, comme on dit, ça a été un flop. Charles, on s'en fout pas. Eh ben Charles, dis-nous pourquoi.
Non, moi je suis consterné évidemment par le résultat de ce sommet.
Peut-être les arrêter, c'est
je constate que tout ça n'avance pas et je crains malheureusement qu'il y a aujourd'hui un tel niveau de corruption dans un très grand nombre de pays et sinon un tel niveau de nullité dans d'autres que dans la classe politique et dans les classes politiques gouvernantes, que malheureusement on ne peut pas avancer. Et on ne peut pas dire que la France ait particulièrement montré l'exemple dans ce domaine depuis 5 ou 10 ans. Donc voilà, on est nous-mêmes aussi nuls que les autres, mais c'est certain qu'on ne progresse pas sur le plan de l'économie.
Moi, je vais même vous dire que c'est tellement catastrophique, COP après COP, ils essaient de grignoter les minimales avancées. Ils ne pousseront qu'à une seule chose. Je n'ai pas dit à l'extrémisme, mais je dis à une forme de radicalité dans les attentes et les revendications écologistes et environnementales. Parce qu'à un moment, quand on fait des Raoult qui coûtent des milliards, des bilans carbone piteux pour, en réalité, discutailler dans les couloirs et se faire des checks et se faire des « Ah, t'as vu, j'ai fait une photo avec Poutine. Non, t'as vu, j'ai fait une photo avec Macron. » C'est se foutre du monde. La situation est très grave. Et l'empreinte écologique... Tiens, on parle du Qatar. Vous savez ce que c'est l'empreinte écologique du Qatar, hein? C'est-à-dire ce qu'on produit, ce qu'on devrait produire comme nombre de planètes Terre pour absorber nos déchets et tout ce qu'on consomme. Et bien, le Qatar, c'est 9 planètes. Et nous, la France, c'est 3 planètes. Et je vais vous dire... La Chine, c'est 2 planètes et l'Inde, c'est moins d'une planète. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les pays du Nord, les pays occidentaux, par nos modes de vie, on a effectivement une empreinte écologique qui justifie cet accord pour dédommager les pays pauvres dans lesquels on va chercher les terres rares qu'on va détruire. Je rappelle le projet de Total en Ouganda qui est une catastrophe écologique.
Merci, à demain.
Et là, non mais voilà, donc c'est une catastrophe. Non, mais c'est une catastrophe.
Il faut quand même préciser que si ça n'a pas fonctionné, c'est pas à cause des pays riches, c'est plutôt à cause des pays émergents.
La justification de Barbara est fausse.
Les pays émergents, pas des pays pauvres.
On attend la fin de la méthode Barbara qui consiste à te croquer ton porte-parole.
C'est pas à cause de la France.
Aujourd'hui, voilà. Alors moi, je vais repartager cette publication Facebook qui a beaucoup plus à mes amis, qui consiste à avoir un petit relevé des 800 jets privés, des GPS des 800 jets privés, où la légende ils sont venus avec 800 jets privés pour nous expliquer qu'il faut qu'on roule en vélo. On va la repartager bientôt. Et après, Barbara, tu te trompes, parce que ce qui a fait capoter la COP27, c'est plus les pays hyper industrialisés qui ont pollué, c'est les pays producteurs de pétrole, tout simplement.
C'est le lobby pétrolier.
C'est pas les Occidentaux avec leur mode de vie dégradé qui fait que.
Mais non, mais pour moi, quand je te. Excuse-moi, mais un Qatari ou d'un Saoudien, c'est exactement le mode de vie d'un Occidental. C'est-à-dire, on consomme.
Les enjeux ne sont pas les mêmes.
C'est pas ça.
Excuse-moi.
C'est la production de pétrole. C'est les producteurs d'énergie fossile.
Mais pas me
ceux
dire
qui
que
sont
les pays
contre
pauvres,
la COP aujourd'hui, c'est les producteurs d'énergie fossile, c'est pas ceux qui consomment les énergies fossiles.
Donc en bref, la COP,
ça a changé.
C'est un flop.
Enfin voilà, on est quand même encore sur un modèle d'écologie punitive. Parce qu'on accepte de payer chez ceux qui auront les conséquences, mais on ne change pas les pratiques. Voilà.
Exactement.
Tout.
Ça, si on doit faire le bilan de cette COP en une phrase.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
C'est Douy dans Malcolm.
Tu connais Charles ?
Non.
T'es sûr ? Alors, les drones comme principale menace terroriste pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une menace éventuelle d'un drone chargé d'explosifs qui va sur une foule lors d'un match ou d'une série de money d'ouverture. Je vais y arriver ce matin. On pense évidemment à la Coupe du Monde de rugby ou les JO 2024. Je suis pas réveillé.
J'ai rien compris.
Ouais. Bon, en gros, les drones, c'est dangereux. Attention, on reçoit des...
On a peur des drones.
On a peur des drones.
Merci Darmanin, on n'était pas au courant.
Voilà, on s'en fout, on s'en fout pas.
Alors,
on
vous imaginez les drones attaquant Paris.
On s'en fout parce qu'on le savait. On le savait déjà.
On s'en fout.
Didier. On s'en fout pas parce que quand t'es Gérald Darmanin, il te faudra quand même gérer demain la cérémonie d'ouverture, enfin en gros l'organisation et des JO et de la Coupe du Monde de rugby, et que c'est une menace. Après, merci Gérald, si les terroristes n'y avaient pas pensé, de leur avoir fait penser.
Une capacité logistique générale en France, moi, je suis impatient de voir la
réussite. Non mais c'est ça. On est quand même dans les deux prochaines années organisateur de deux gros événements.
Tu veux circuler à Paris au mois d'août dans la nuit du dimanche, tu peux pas y arriver. Donc imagine les Jeux Olympiques en semaine, ce que ça va être. J'attends avec impatience.
Il y a les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Il y a deux gros événements.
L'un en novembre 23 et l'autre en juillet 24. Et je pense quand même que quand t'es Gérald Darmanin, il y a des jours où tu dois pas dormir tranquille à cause de l'organisation et de la sécurité qu'il y a autour de ça.
Il nous reste une minute encore.
Quand,
un petit
quand la disparition d'un imam te fait trembler, les drones, c'est plus compliqué. Ben non, on a fini, non ?
Non, c'est fini. Bon, allez, hop. Mais merci Louis.
Allez.
Dans un instant, tiens, ce sondage qui est paru il y a quelques jours, 61% des Français craignent d'avoir froid chez eux. Alors certes, on va prolonger le bouclier tarifaire, etc. Mais le problème, c'est que ça ne suffira pas parce que la note s'annonce particulièrement salée pour ceux qui vivent dans des passoires énergétiques. Et alors, il y a un boom dans les magasins. Les Français se précipitent pour acheter des produits anti-froid, couettes, bouillottes, polaires. Dans la France de 2022, on va se cailler. Alors justement, craignez-vous d'avoir froid chez vous? Comment vous allez faire? Est-ce que vous êtes en train de vous organiser? On attend vos témoignages au 32-16 et puis à 11h, c'est à vous de choisir deux sujets et c'est vous qui tranchez. Soit on parlera du Qatar qui a raté son entrée dans le mondial, soit des révélations du Parisien concernant les derniers jours de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un islamiste et totalement lâché par l'éducation nationale. A tout de suite sur RMC, RMC Story, avec Didier Giraud, Charles Consigny et Barbara Lefebvre.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.